Voilà, donc les enfants peuvent aller avec les monitrices, moniteurs. C'est Véro qui les prend. Comment développer une foi mature? C'est le thème de l'épître à Jacques, pasteur à Jérusalem, qui était une grosse église, la première église. Et ils avaient donc un sens pratique. Dieu a agi, Dieu a béni. Eux, ils ont transmis leur foi. Ils ont résisté dans des difficultés aussi. Comme nous avons vu aussi, l'église, parfois mise à l'épreuve, mais qui agit. Comment donc développer, comment avoir cette foi qui tient, qui est pratique, qui est utile ici en France de nos jours. Et Jacques nous donne plusieurs pistes de réflexion dans son épître. La foi véritable est plus qu'un sentiment, plus qu'une question doctrinale. La foi véritable est une confiance qui se manifeste par des actes, se développe dans ses actes et sa famille dans sa relation avec Dieu. Un café, un vrai ou un faux? Real Humans, la série télévisée, Coke, le seul vrai, Auchan, la vie, la vraie. On veut ce qui est vrai. Certaines personnes s'interrogent, on dit, à quoi ça sert la foi? Et Jacques répond en disant la vraie foi, ça sert à énormément de choses. D'abord, la vraie foi sauve l'âme pour l'éternité, permet à faire la paix avec un Dieu juste. La vraie foi aussi permet de vivre au quotidien d'une manière qui rend service et qui est utile. Quelque part, la foi véritable, la vraie, est bien utile. Jésus a dit, par le fruit, vous les reconnaîtrez. Snoopy a l'air d'avoir froid, n'est-ce pas? Et comment peut-être que nous devons aller le réconforter? Sois encouragé, Snoopy. Oui, sois encouragé, Snoopy. Snoopy, est-ce que ça vous est arrivé? Vous passez par le pétrin et on vous dit, sois encouragé. Ça vous tient? On vous tape sur le dos, je prierai peut-être pour toi. Ou vous venez d'être licencié, un membre du groupe ou de l'église, et on leur dit, bon courage, Dieu, il a dit qu'il prendrait soin, il nourrira les petits oiseaux, il s'occupera de toi. N'est-ce pas cela dont parle Jacques ici, quand il dit « Va, sois chauffé et encouragé. » Mais il s'interroge et il dit « Est-ce une foi véritable? Est-ce une foi qui se fait vraiment quelque chose, qui a un poids, qui a une essence, qui est là? Est-ce aussi même il ramène ça à l'éternité. Est-ce une foi vraiment qui compte vis-à-vis de Dieu? Est-ce cette foi-là qui va vous conduire au-delà de l'éternité devant un Dieu juste? Est-ce que c'est cette foi-là qui sauve? Bon, ils disent que c'est plus donc un sentiment. Va, soit chauffé, encouragé. Il dit de deux, c'est plus qu'aussi qu'un credo. Je crois en Dieu, le Père, et à son Fils. Il dit que les démons croient. Le diable est un théologien. Le diable connaît la Bible. Le diable sait qu'il y a un Dieu, si on sait ça. Et le diable, il dit, les démons frémissent. Ils agissent, ils font quelque chose. Ils sont impressionnés, à moins à un point de frémir. Donc, dans notre culture, où, si vous êtes croyant, ça vous regarde. Toi, tu es croyant, si ça marche pour toi, si tu veux, mais tu le gardes pour toi. Tu le pratiques chez toi. Quelque part, Jacques nous dit, il ne s'agit donc pas d'une foi, oui, je crois qu'il y a un Dieu. Pour lui, il s'interroge, il demande, est-ce cette foi-là sauve? On n'est pas en bonne compagnie. Une foi, je crois que Dieu existe. Si le diable le croit aussi. On dit que Jean-Jacques Rousseau était de quelque sorte quelqu'un qui proclamait que l'humanité était aimable et gentille et douce. Il proclamait donc cette doctrine de l'amour gentil. Par contre, on avait s'interrogé, est-ce qu'il croyait vraiment? Il a reconnu son père pour recevoir son héritage. Il a trouvé que son frère était mort pour reprendre de l'argent de la famille. Il a mis au monde 5 enfants. Il les a laissés à la fonction publique d'être élevé, est-ce cette foi, est-ce que cet acte-là qui confirme sa doctrine? Le 30 juin 1859, le célèbre funambule Charles Blondin a traversé les chutes de Niagara. Le premier, sur une corde de chanvre, longue de 330 mètres, avec un abysse de 50 mètres de chute. Il a traversé à plusieurs reprises. Il s'était arrêté au milieu pour faire cuire une omelette. Il a traversé avec son manager sur le dos. Et puis, il est arrivé au bord, de l'autre côté, avec une brouette, il a traversé, et il a demandé, est-ce que tu crois que je peux te transporter, vous transporter de l'autre côté, à un touriste? Et quelque part, c'est là. Si on croit en Dieu, Dieu veut des fois nous mettre un peu au pied du mur. Il veut nous inviter, nous appeler, nous engager pour que notre foi produise, agisse ou fasse quelque chose. Et c'est là, de cette foi-là, que Jacques parle et il donne deux illustrations. La première dans la personne d'Abraham. Alors Abraham est un patriarche, il a reçu quelques promesses et il les a crues. En Genèse 15, il sort d'une bataille avec plusieurs rois. Il a gagné la bataille pour ramener Lot, son neveu, à la maison. Il n'a toujours pas d'héritier et demande, est-ce que lui aura possibilité d'avoir cette grande famille? Et finalement, Dieu le rencontre, il le rassure. N'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Regarde vers le ciel, compte les étoiles, et si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Et la Bible dit, Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut attribué, compté comme justice. C'est-à-dire que c'est une situation difficile. Il n'avait pas d'héritier, et Dieu lui promet de compter les cieux, les étoiles dans le ciel. Et toujours, encore pendant une décennie, il n'aura pas d'héritier. Mais c'est cette fois-là que Dieu appelait Abraham à voir. Une fois qui, malgré tout, le temps avance, sa femme vieillit, Sarah, et toujours pas de promesse, toujours pas d'héritier en vue. Et c'est cette fois-là que Dieu a honoré et a béni. Et devant les situations où tu te trouves, Dieu veut bénir. Dieu est un Dieu qui, comme Père et comme Créateur et comme seul celui qui est bon, il veut bénir, il veut agir, il veut donner. Mais une façon aussi, c'est parfois qu'il retient et qu'il veut nous faire travailler le muscle spirituel caché de notre foi pour qu'elle produise quelque chose. Et Jacques dit que sa foi a agi avec ses œuvres. Et de deux, les œuvres ont mené cette foi à la perfection. Le fils héritier d'Abraham est né dans la personne d'Isaac. Quelques années plus tard, 10 ans plus tard, Dieu demande à Abraham de sacrifier ce fils héritier. D'amener ce qui était pour lui en tant que père et patriarche, celui qui a reçu cette promesse, que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il demande maintenant qu'il mette ça encore sur l'autel. Encore, Dieu veut que cette foi soit agissante. Il mettra à l'épreuve notre foi parce qu'il veut que nous apprenions à lui faire confiance. Il veut bénir, il veut agir dans ta vie, dans ta situation, même quand il faut attendre, même quand il n'y a pas encore, ou même quand tu as reçu et que ça semble fragilisé ou se semble menacé et que ce soit Dieu lui-même qui t'invite à le lui redonner, lui faire encore de nouveau confiance. Mais regardons la réponse. Genèse 22, à partir du verset 15, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Il croyait même que Dieu pouvait ressusciter son fils. a dit l'Épître aux Hébreux. C'est-à-dire, c'était un homme qui continuellement agissait. Il avait une foi qui était en marche, une relation avec un Dieu vivant et qui mettait au profit, il mettait au service. Hein, quand Dieu lui demandait quelque chose, il obéissait. Et quand Dieu lui promettait quelque chose, il croyait. Et que c'était petit à petit, cette foi qui se développait, qui croissait, mais qui bénit, et qui était bénie, et qui voyait des fruits et des résultats. Verset 16, Genèse 22. Je ne jure pas moi-même. Déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Mais il avait déjà promis. Et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, pas fini. Ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Pas encore fini. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. C'est un Dieu qui veut bénir et il s'attend à ce que ses enfants, sa descendance, son peuple lui fassent confiance et qu'il promet, on croit. Et quand on reçoit et quand il demande, on peut encore de nouveau le lui remettre quand il faut pour que lui-même prenne, agisse, bénisse. Et là, il a dit, ta descendance sera bénie, mais puisque ta foi, elle est vraiment une foi engagée, une foi qui sacrifie, une foi qui n'a pas retenu de moi ce que je t'ai demandé, tu l'as placé comme sur un autel, ce qui est de plus précieux, je multiplierai, je bénirai, et je ferai de sorte que cette descendance-là soit la source de bénir toutes les familles de la terre. Et ce Dieu qui prend, qui peut mettre la foi, multiplie et bénit. Et c'est cette foi-là qui est une foi engagée ou une foi qui répond, une foi qui a attendu, une foi qui ne voyait pas. Et quand enfin on reçoit, encore cède sur l'autel à ce Dieu qui promet. Mais Dieu n'a pas laissé en plan son ami Abraham. Et c'est pas encore fini. Jacques dit que les œuvres travaillées avec sa foi et l'amener à la perfection. Il avait un peu, il la met à l'œuvre, il voit. Et cette œuvre confirme et montre ce Dieu. Ce n'était pas le lendemain, ce n'était pas le jour même, ce n'était pas l'ATM, ce n'était pas les distributeurs du coin. Il a fallu des années, mais pendant ces années, Abraham a marché avec Dieu, a cultivé cette relation, mais évidemment avait une relation d'obéissance. Dans les petites choses comme dans les grandes. Et Dieu l'a béni. Et Abraham est une source de bénédiction. Et Abraham et le père d'Isaac, qui est le père de Jacob, qui est Israël, qui est de la lignée de David, qui est la lignée de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et je bénirai, il a dit, toutes les familles de la terre par ta descendance. Et ce n'est pas encore fini. Jacques nous dit, il fut appelé ami de Dieu. Avoir un ami est précieux. Avoir Dieu comme ami, le créateur de l'univers, celui qui est infini, celui qui est merveilleux et parfait, et saint, et bon, dépasse notre imagination. Mais Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Dans la chambre haute avec ses apôtres. Jean 15, 14. Et cette foi se voit, cette foi peut être mise en attente pour qu'elle se fortifie. Et cette foi aura des résultats quand bien même que Dieu réclame qu'on le remette sur l'autel. Ce qu'on a longuement entendu à recevoir. Mais Dieu dit, puisque tu m'as obéi, je te bénirai. Je multiplierai. Et toutes, par cette foi de ce que cette offre, je bénirai tous. Pas seulement toi. Et puis Abraham fut appelé ami de Dieu. Et quand nous agissons d'une manière, quand nous mettons en marche notre foi, Dieu bénit parce qu'il aime bénir. Et il veut bénir. Mais il veut aussi que notre foi grandisse par nos œuvres. Et quand on agit et on voit qu'il y a du fruit dans ce qu'on fait, même quand il faut attendre et persévérer dans la foi. Mais quand Dieu bénit et quand Dieu fait, cette foi vaut votre salut éternel en Jésus-Christ. Cette foi est réelle, cette foi est pratique, cette foi agit éternellement, mais aussi dans la pratique, dans le quotidien avec toi. Cette foi a un prix aussi aux yeux de Dieu qui t'appelle son ami. Et cette foi-là, elle vaut quelque chose, elle vaut beaucoup de choses. Parce que la vie en découle, et pour toi, et aussi à travers de toi, aux autres. Et cette foi se cultive. Jacques dit que les œuvres d'Abraham ont mené sa foi à la perfection. Il avait déjà cette foi, mais il a vu cette foi à l'œuvre, et ça a bonifié, ça a encouragé, ça a fait que cette foi tienne, cette foi grandisse. Cette foi se développe, cette foi se donne à sa progéniture, à son peuple, et fut appelé ami de Dieu. Un ami, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un avec qui on parle face à face. Et c'était ça qui était Abraham, et c'est précieux. Et c'est ce que Jésus veut créer en toi, en moi. Cette relation de dialogue, mais aussi de confiance, que quand il nous demande ou quand il nous promet, on croit Et quand il nous demande, et rappelons-nous le cadre, le contexte dont l'apôtre Jacques parle, c'était dans le cadre de l'Église où quelqu'un entre et il y a des besoins. Et on a dit qu'on agit. Et c'est cette fois-là où cette amitié que Dieu on a entre nous et Dieu se partage. Et on apprend à se la donner aux autres pour les bénir, puisque nous sommes aussi un peuple béni. Et c'est cette fois-là que Dieu veut créer. Mais notons qu'il y a des occasions. Il y avait pour Abraham une attente. Et même quand il avait reçu, il y avait encore la demande de la part de Dieu, donne-le-moi. Et Abraham l'a fait. Et quand on le fait, quand, par la grâce de Dieu, il nous permet d'agir, de répondre, d'aimer, de servir, de faire, combien même qu'on est fatigué ou cassé ou découragé ou je ne sais pas comment je vais manger ou si ça c'est le cas. Mais on répond et on agit, on bénit, on fait. Est-ce que Dieu ne peut pas te dire « Je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela et tu ne l'as pas refusé, je te bénirai. » Je multiplierai ta vie, ce que qui tu es, ta personne, ou ce que tu as, et les autres seront bénis en toi. Et tu seras mon ami, Jésus dit, puisque tu fais ce que je commande. Il donne un deuxième exemple, c'est Rab, la prostituée. Elle n'est pas patriarche, elle n'est pas homme, c'est une femme. Elle n'obéit pas, elle est plutôt en désobéissance, mais elle croit. Elle reçoit et Dieu dit, elle est justifiée. Elle est déclarée juste. Donc, au fond, c'est la foi qui justifie, ce n'est pas les œuvres. Mais ce n'est pas la foi non plus sans les œuvres. Et la foi sans les œuvres, Jacques nous dit tout simplement, est morte ou stérile ou inutile. Suis-je un chrétien? C'est celui qui agit. C'est celui qui a au fond cette relation, amitié avec Dieu, avec Jésus-Christ, et qui la donne, la montre, comme Dieu le demande. Si quelqu'un dit qu'il est croyant, il n'y a pas de changement dans sa vie. Ne faudrait-il pas mieux de s'interroger, est-ce que c'est cette foi-là qui sauve? Y a-t-il vraiment des changements? Si une branche, un fil de 220, et on met sa main, on saura si c'est branché ou pas. Et si on a remis sa vie à Dieu, qui est bien plus puissant, on saura par quelque chose dans sa vie, si vraiment on a cette foi. L'apôtre Paul a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par la grâce, Dieu nous fait grâce en Jésus-Christ, énorme. Il nous aime, premier, sans condition, lui, de manière sainte, et à 100%. C'est pas la grâce, pas la foi. je réponds. Je mets ma confiance en Jésus. Et je suis sauvé. Et puis le verset suivant, verset 10, il dit, pour les œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance. Sauvé par la foi, par la grâce, pour, pas par les œuvres, mais pour les œuvres. Si on dit, je ne me souviens pas vraiment de moments dans ma vie où j'ai vraiment consciemment pris une décision de vouloir suivre Jésus-Christ, de, par la foi, remettre ma vie à lui. Et si c'est votre cas, vous pouvez répondre par la foi à ce Dieu de grâce qui s'offre, qui se donne pour vous pardonner, pour être votre Dieu, pour être avec vous, pour créer en vous ce cœur nouveau, de faire de vous une nouvelle création pour marcher. Il suffit de demander, il suffit de répondre par la foi. Je vais prier, nous allons terminer par la prière. Je vous invite à un moment de prière. Seigneur, je me rends compte que peut-être une prière modèle, si c'est votre cas et vous n'avez jamais pris cette décision de remettre votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez le faire ce matin ou chez vous. Voici une prière modèle où je vais prier ou proposer. Seigneur Jésus, je te remercie de cette grâce, cette offre énorme d'être appelé à toi et de te connaître. Merci de me pardonner à cause de Jésus-Christ, sa mort, ta mort sur la croix pour moi. Ton amour envers moi est immense et manifesté par le Christ. Donc, je te, par la foi, demande pardon et je reconnais que jusqu'ici, j'ai pris mes propres décisions. Je te donne donc ma vie, le mauvais, le bon, les réalisations, les échecs. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Aide-moi aussi à grandir dans cette relation avec toi. Aide-moi à découvrir davantage sur ta personne, ton amour, en croyant à tes promesses, en obéissant à ta parole. Merci d'être mort pour moi sur la croix. Aide-moi à te suivre, à entrer dans cette brouette ce matin. Je veux commencer à marcher avec toi, à découvrir davantage, au nom de Christ. Et si tu as prié cette prière et ou dans le passé, ou tu as encore, tu peux démarrer cette relation, cette foi véritable avec Jésus-Christ. Père éternel, je te prie aussi pour chacun. Tu connais les défis et aussi les promesses que tu fais pour envers chacun. Et je te loue énormément pour toi et le fait que tu veux faire de nous tes amis. Tu veux nous bénir, tu veux multiplier aussi ces bénédictions auprès de chacun de nous. Fortifie la foi de chacun, là où il y a épreuve ou doute, et de nous, ou attente. Fortifie ton cher peuple pour qui le Christ est mort, pour qui tu t'es donné, et merci aussi pour ce que tu feras. Ce que tu es en train de faire en nous chaque jour et aussi à travers de nous. Et ceci, nous te le prions avec reconnaissance au nom de Christ pour ce que tu fais et ce que tu veux encore faire pour nous, parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui agit, tu es un Dieu qui garde ses promesses, tu es un Dieu qui veut bénir, et tu es un Dieu qui a s'est manifesté en Jésus-Christ, à Abraham, en Syrie. Et chaque fois qu'on met notre confiance en toi, donc nous voulons de nouveau, tout simplement, te remercier pour toi et te demander de nous fortifier, que notre foi qui t'est précieuse soit agissante pour accomplir dans nos vies, mais aussi autour de nous, dans la vie des autres, ce que tu veux pour ta gloire, pour te ressembler, au nom de Christ. Amen. Voilà. Bon dimanche. Saluez-vous, les uns les autres.